Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Vous avez la parole, vous connaissez le principe, bien sûr. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une aujourd'hui l'alerte météo que nous vivons tous, plus ou moins aujourd'hui. Un tiers du pays est en vigilance rouge ou orange. On va aller à Bordeaux retrouver Stéphane Place. On va voir que la canicule a un coût. Et puis on va aller également dans la commune de France où il y a le plus de piscine privée et de jacuzzi par habitant. Ce n'est pas dans le sud de la France, c'est en Alsace. Et oui, on l'a appris ce matin au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. On a appris que la France ne recevait plus de gaz russe. Quelles conséquences ? Je poserai la question à Maud Descamps. La pénurie de pilotes. Pour résoudre le problème, les compagnies aériennes font de plus en plus appel aux pilotes intérimaires. Faut-il s'inquiéter ? On verra ça avec Aurélien Fleureau. Et puis on est à J-2 avant le second tour des législatives. Les enjeux du vote avec Jacques Seret. Et puis on va en parler ensemble de cette période et de ces élections. Vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne. Et puis on est également avec Bruno Cotterêss, politologue et chercheur associé au CEVIPOF. Bonjour Bruno Cotterêss.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Et avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, évidemment. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Et à tout de suite tous les deux.
Europe 1.
Parmi les départements en vigilance rouge, il y a la Gironde à Bordeaux. On attend, écoutez bien, jusqu'à 38 degrés cet après-midi. On y retrouve tout de suite Stéphane Place. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les Bordelais suffoquent.
Oui, bah c'est une chaleur étouffante que l'on ressent ici tous depuis ce matin. Et dans moins de deux heures, ce sera une conséquence directe de ces 40 degrés, 41 demain, donc de cet épisode caniculaire, dont je le souligne, l'intensité est inédite en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, des mesures vont entrer en vigueur, des interdictions décidées par la préfète de la Gironde, Fabienne Bussiau.
Il y a d'abord une mesure qui est l'interdiction des manifestations extérieures, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Je dis bien les manifestations publiques. Hein. Il n'est pas question à des gens qui ont prévu de se marier qu'on les interdit de se marier. Également, manifestations publiques interdites dans des locaux, salles polyvalentes ou ce genre de choses qui ne seraient pas climatisées.
Et puis, samedi 18 juin, il y avait des commémorations qui étaient prévues.
Compte tenu qu'on a un public qui est plutôt âgé, ces manifestations pourront être reportées, notamment le dimanche et à une heure plus fraîche.
Voilà, donc arrêté préfectoral qui rentre en vigueur à 14h. Et puis dans le Tarn, par exemple, également en vigilance rouge, c'est la retransmission sur écran géant dans le centre de Castres de la demi-finale de rugby opposant ce soir les Castrés aux Toulousains que la préfecture a décidé d'annuler. Il faut dire, Romain, que si les seniors comme les nourrissons sont très vulnérables face à de pareilles températures, en réalité, nous sommes absolument tous concernés, comme le souligne Benoît Elbod, le directeur de l'Agence régionale de la santé en Nouvelle-Aquitaine.
Même quand on n'est pas fragile, on peut avoir des problèmes de santé liés à cette chaleur. On ne fait pas d'efforts physiques extérieurs, même quand on est jeune et en bonne santé, dans ces périodes de grande chaleur avec une température de 40 degrés. C'est l'évanouissement assuré, la saturation des hôpitaux et peut-être même des conséquences pour après.
Voilà, on oublie le footing, le vélo et autres activités de ce type. La nuit prochaine s'annonce difficile ici dans le sud-ouest puisque les températures ne redescendront pas sous les 21 degrés, voire sous les 25 degrés.
Stéphane Place, merci beaucoup Stéphane. Voilà, même quand on est jeune, même quand on est en bonne santé, on ne fait pas d'efforts physiques. C'est ce qu'on retiendra notamment et accessoirement qu'il fait très chaud également à Bordeaux. Merci beaucoup Stéphane. Vous avez peut-être déjà chaud, le pic ce sera cet après-midi. Ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Des départements en alerte canicule, les 40 degrés seront fréquemment atteints, voire dépassés aujourd'hui ou même demain. Une chaleur insoutenable qui fait tourner la France au ralenti. Et Geoffrey Branger, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Cette canicule, elle peut coûter très cher. Hein.
Et oui, les dernières vagues de canicule de 2015 à 2020 auraient coûté entre 22 et 37 milliards d'euros selon une étude de Santé publique France. Entre le ralentissement de l'activité économique, notamment dans le bâtiment, l'annulation d'événements, les incendies ou encore les pertes de récoltes, ce sont des milliards qui partent en fumée. Mais selon Olivier Chanel, directeur de recherche au CNRS et co-auteur de l'étude, c'est surtout l'impact sanitaire de ces vagues de chaleur qui coûte le plus cher.
Il y a des impacts sur la mortalité, avec une mortalité prématurée. Et il y a des impacts sur le système hospitalier, puisqu'il y a plus de cas de consultation SOS médecins, plus de cas de consultation aux urgences, plus d'hospitalisation. Et enfin, des pertes économiques qui sont associées aux pertes de bien-être.
Alors s'il est encore trop tôt pour chiffrer le coût des canicules qui ont touché la France depuis un an, il est évident pour tous les spécialistes que ces séquences de chaleur vont s'intensifier dans les années qui viennent et donc coûter de plus en plus cher.
Geoffrey Branger, merci beaucoup Geoffrey. Alors avec ces températures étouffantes, chacun cherche un petit peu de fraîcheur forcément. Et en France, il y a un village où il fait bon vivre en cette période caniculaire, c'est Truchtersheim en Alsace, la commune qui compte le plus de piscines au kilomètre carré par habitant. Tatiana Geselman est allée y faire un petit plongeon.
Premier réflexe de Louise en rentrant de l'école, sauter dans la piscine. 12 mètres de long, 4 mètres de large et une eau à
28 degrés à peu près.
Il y a de quoi se rafraîchir. Et elle n'est pas la seule. À l'école primaire de Truchtersheim, c'est même la compétition pour savoir qui a la plus grande.
Ah ben moi, elle est super grande. En plus, elle est en forme de diamant. Elle est
ah mais chez
belle.
Les autres, elle est énorme.
Moi, elle est creusée.
Ouais, mais elle a une plus grande piscine.
Plus grande. Ah ouais, moi, elle est la deuxième. Plus profonde.
De quoi faire des jaloux dans les villages voisins qui vont jusqu'à épier les habitants de Truch.
Vous avez pas regardé sur Google Maps en satellite?
Ah, vous avez déjà regardé?
Ouais.
Ça donne quoi?
Bah, il y a plein de piscines partout.
D'ailleurs, les rares à ne pas encore avoir de piscine finissent eux aussi par céder.
Ah, j'en ai une!
Non, non, mais parce qu'en fait, la nôtre, elle est démontable.
Et moi, je suis bretonne et la mer me manque énormément.
Une piscine de plus à Truchtersheim, donc, un sacré avantage selon Julien, le père de Louise.
Si j'habitais dans un village où il n'y a pas de piscine, j'aurais tous les gamins qui viendraient. Donc, ça serait la piscine municipale. Alors qu'ici, comme tout le monde dans son jardin a une piscine, bah, nous, on est aussi tranquille dans la nôtre.
Truchtersheim, Tatiana Geselman, Europe 1.
Voilà, le village où il y a le plus de piscines par habitant. Le village où il y a le plus de piscines par habitant en France, donc c'est en Alsace. Il est midi 6, coup de théâtre, écoutez bien. La Russie, depuis ce matin, ne livre plus du tout de gaz par gazoduc à la France. En Italie, ce ne sont que 50% du gaz qui a été livré. Cette coupure dans les livraisons de gaz russe intervient au moment où l'Europe, évidemment, réfléchit à un embargo sur le gaz russe d'ici la fin de l'année. Moscou a donc décidé de prendre l'Europe de court. Maude Descamps avec nous. Bonjour Maude.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Est-ce qu'on pourrait manquer de gaz en France, chez nous et chez les consommateurs?
Alors, pas dans l'immédiat, hein, c'est ce qu'on m'a expliqué chez le gestionnaire du réseau français de transport de gaz, GRT Gaz. Comme nous sommes en été, nous consommons moins d'énergie puisque nous n'avons pas besoin de nous chauffer, donc pas de risque de pénurie. Il faut savoir que le gaz russe représente à peu près 17% de nos importations. Cette part de gaz en moins pourra être compensée par nos importations de GNL, le gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau. C'est ce qu'on m'a indiqué chez Engie. La France en importe de Norvège, mais aussi des États-Unis. De plus, les stockages français sont à environ 55% de remplissage. Néanmoins, si la Russie décidait de ne pas rouvrir ses vannes et que l'hiver prochain était particulièrement froid, alors nous n'aurions pas assez de gaz, à la fois pour les ménages qui se chauffent avec ce type d'énergie, mais aussi pour nos centrales à gaz qui fabriquent de l'électricité. Il serait alors nécessaire de demander aux Français de faire un effort en régulant leur consommation. Et puis, on pourrait également décider d'activer ce qu'on appelle le décret délestage, c'est-à-dire qu'on couperait le gaz aux gros consommateurs, là on parle de l'industrie, on parle d'entreprise, pour pouvoir assurer l'approvisionnement des établissements prioritaires comme les hôpitaux, les EHPAD ou encore les écoles.
Merci beaucoup Maude. Et écoutez cette réaction ce matin du ministre allemand de l'économie et du climat. C'est une décision que Vladimir Poutine prend de manière arbitraire. C'est comme ça que les dictateurs et les despotes agissent. Réaction donc du ministre allemand de l'économie. Et puis on apprend par ailleurs à l'instant que la Commission européenne se dit favorable à un statut de candidat de l'Ukraine, donc à l'Union européenne. La Commission européenne favorable à un statut de candidat hein, dans l'antichambre avant d'entrer à l'Union européenne, dans l'Union européenne. La Commission européenne donne son feu vert donc pour que l'Union étudie le dossier. Dernières heures de campagne pour les candidats aux élections législatives. La tension monte alors que l'actuelle majorité présidentielle n'est pas assurée d'obtenir la majorité absolue. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Faisons un point avec vous sur les enjeux de ce second tour. La clé du scrutin sera une fois de plus la participation. Qu'est-ce qui se profile?
Eh bien, les Français ne s'apprêtent pas à voter davantage qu'au premier tour. La semaine dernière, le taux d'abstention avait battu un niveau record à 52,5%, près de 3 points de plus qu'il y a 5 ans. Et selon les projections de l'IFOP pour le journal du dimanche, il ne devrait pas y avoir de sursaut. L'abstention augmenterait même très légèrement de quelques dixièmes. Ce n'est ni une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Emmanuel Macron. quand l'un appelle à un sursaut de mobilisation chez les jeunes, notamment pour contrecarrer les réformes du chef de l'État. L'autre espère un réveil des consciences républicaines. Reste à savoir qui aura le dernier mot à la sortie des urnes. Pour Emmanuel Macron, l'objectif est clair, obtenir la majorité absolue, autrement dit plus de 289 sièges de députés, pour mettre en œuvre son projet sans être gêné au Parlement. Dans le cas inverse, il devra composer avec la droite et c'est bien ce qu'espère une partie des candidats Les Républicains. En cas de majorité relative, ce sont eux notamment qui pourront faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre sur les réformes les plus emblématiques, comme celle des retraites. Pour l'Alliance de gauche, l'enjeu est de confirmer la dynamique du premier tour en décrochant le maximum de circonscriptions pour s'inscrire comme la première force d'opposition dans l'hémicycle. Enfin, du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen espère dépasser le seuil des 15 candidats élus. Ce devrait être largement le cas alors qu'il y a 5 ans, seuls 8 RN l'avaient emporté. L'ex-candidate à la présidentielle devrait donc pouvoir constituer un groupe au Palais Bourbon, une première depuis 36 ans. L'avantage pour le Rassemblement national, plus de moyens matériels et financiers, davantage de temps de parole et des postes assurés dans les commissions parlementaires. Une certitude avec une gauche qui s'annonce beaucoup plus représentée, un RN plus puissant qu'il ne l'était et des Républicains qui limitent la casse. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron n'aura rien à voir avec le premier. Chaque texte sera un combat pour la Macronie.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. Il est midi 10, restez bien avec nous. Pour faire face à la pénurie de pilotes cet été, des compagnies aériennes font appel à des pilotes intérimaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On en parle juste après la pub. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Préparez-vous, cela risque bien d'être la pagaille dans nos aéroports cet été. Les passagers sont de retour, mais pas le personnel. 4000 postes à pourvoir aux aéroports de Paris. L'aéroport d'Amsterdam a d'ailleurs même dû annuler des vols pour limiter le nombre de voyageurs et le risque de pagaille. Certaines compagnies low-cost optent pour une autre stratégie, faire appel à des auto-entrepreneurs. Et oui, et même à des postes clés, Aurélien Fleureau, hein.
Oui, puisque recruter, cela demande du temps, notamment de formation, mais certaines compagnies low cost font tout pour ne pas annuler de vol. Voilà pourquoi elles augmentent le recours à des auto-entrepreneurs en passant par des sous-traitants plus ou moins vertueux. Buzz, filiale polonaise de Ryanair, est souvent pointé du doigt. Être indépendant, c'est être précaire, dénonce Olivier Rigazio, porte-parole du syndicat national des pilotes de ligne.
Ça pose plusieurs problèmes. Le plus gros problème pour nous, c'est la sécurité des vols, ça le sera toujours. Et quand on est auto-entrepreneur, on va peut-être effectuer la mission fatiguée ou malade et ça pose un problème de sécurité des vols.
Des conditions de travail que l'on retrouve beaucoup moins chez les compagnies historiques. Air France s'en sort bien parce qu'elle a moins licencié. Alors que voler, même si vous êtes fatigué, eh bien c'est justement ce qu'a demandé il y a quelques jours à son personnel le PDG de Wizz Air, une low-cost hongroise. Joseph Varadi les a incités, je cite, à faire un effort supplémentaire pour éviter les annulations. Des propos aussitôt condamnés par l'ECA, le syndicat des pilotes européens, pour qui demander aux pilotes de voler lorsqu'ils sont fatigués est comme remettre les clés d'une voiture à un conducteur ivre.
Voilà, des pilotes auto-entrepreneurs, des pilotes intérimaires. Voilà ce qu'on va retrouver dans les cockpits cet été. Place ce soir à la première demi-finale du championnat de France de rugby, le top 14 entre Castres et Toulouse. Match disputé à l'Allianz Riviera de Nice et à vivre en direct et en intégralité, notez-le bien, dans Europe Sport, Europe 1 Sport à partir de 21h05. Cédric Chasseur avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour Romain.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. C'est une opposition de style hein, entre deux clubs que tout oppose ou presque. Hein.
Oui, cela a beau être un derby historique, 70 km séparent Toulouse et Castres. Les deux clubs qui ont plus de 100 ans d'existence n'ont pas grand-chose en commun. Castres, c'est une petite ville enclavée de 40 000 habitants, 5 fois champion de France. Le club est la fierté des habitants, c'est un peu Astérix et Obélix au pays du rugby. Et la potion magique, eh bien, c'est la confiance débordante de cette équipe. L'arrière du CO, Julien Dumourin.
On a des convictions, on est sûr de nos forces aussi et on n'est pas que le petit village gaulois au milieu des autres. Quoi. On sait aussi jouer au rugby quand il le faut et la preuve on est qu'on est en demi-finale cette année encore une fois.
En face, le Stade Toulousain, c'est 21 boucliers de Brennus en 28 finales, des stars sur toutes les lignes. Un mastodonte, champion en titre, obligé de passer par les barrages cette année pour arriver en demi-finale, d'où la prudence affichée par le talonneur Julien Marchand.
Vous pouvez avoir le nombre d'internationaux que vous avez avec vous, ça, rien ne veut dire, ça reste un match de rugby. Ça, chacun dira qui veut qu'il soit favori. Nous, sincèrement, on se met pas favori. On a fini moins bien que eux, donc voilà, c'est Castres, ça reste quand même une très belle équipe et sincèrement, on les respecte énormément.
Toulouse qui possède quand même dans ses rangs le meilleur joueur du monde, un certain Antoine Dupont. Alors l'entraîneur de Castres, Pierre-Henri Broncan, a bien pensé à un plan pour l'arrêter.
Ouais, on lui fait manger des pizzas à Buitoni juste avant la rencontre et ça ira.
Voilà, mais il devra quand même s'en remettre à des moyens un peu plus légaux pour le stopper. La force du collectif, c'est la grande star de cette formation Castres.
Bon, voilà, bonne publicité. Bon, merci beaucoup Cédric Chasseur. Voilà, ça sera à suivre ce soir. Évidemment, sur Europe 1, le sport, c'est sur Europe 1 tous les soirs, vous le savez maintenant. On termine ce journal avec de la musique, c'est aussi un événement. Stromae en concert, c'est rare, 7 ans d'absence et un retour sur scène au compte-gouttes. Le chanteur belge a choisi de se produire seulement lors des festivals. Il était hier soir à Ruons en Ardèche, Jean-Luc Boujon y était aussi, reportage.
Il n'avait plus fait de scène depuis 7 ans, c'est peu dire que les spectateurs de la Luna Festival attendaient Stromae avec impatience.
Quel accueil ! Si.
Sur scène au milieu de robots et avec son double animé sur écran géant, le chanteur belge est apparu en forme mélangeant les titres plus intimes de son dernier album comme L'Enfer Santé ou Fils de Joie. Oui, je sais. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Avec ses plus grands tubes comme Papa Outé Formidable ou Tous les Mêmes.
Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain règlement.
Et le public ardéchois a adoré ses retrouvailles.
Stromae, c'est toujours aussi énorme. C'est tout aussi énergique, il est tout aussi généreux. C'est vraiment un artiste de scène avant tout.
C'était génial. Ah ouais, très très beau concert. Il y a une belle scénographie, c'était super sympa.
On a tous le sourire. Surtout, c'est un artiste tellement total. Il chante, il danse, il écrit, il fait du son. Il parle de lui et ça touche encore plus de gens.
Moi, je l'ai retrouvé, fidèle à lui-même. Il nous avait manqué, effectivement.
Stromae qui va multiplier les dates cet été. On pourra le voir notamment aux Eurockéennes de Belfort fin juin ou aux Vieilles Charrues en juillet. Ruons en Ardèche, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà, c'est toujours très efficace, hein, Stromae en concert uniquement désormais lors des festivals. Il est midi 17, la météo c'est très important aujourd'hui, Anissa Haddadi. 37 départements en vigilance, dont 12 en vigilance rouge canicule.
Oui, il s'agit des départements du Gers, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, des Landes, de la Gironde, de la Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée. Tous ces départements sont en vigilance rouge, canicule. Soyez extrêmement prudents, la journée va être étouffante, très peu d'air, des températures très élevées. 25 autres départements sont en vigilance orange, à l'ouest du pays, dans le centre et jusqu'à la vallée du Rhône. Aujourd'hui, on prévoit 40 degrés à Albi, 41 à Carcassonne, 39 pour Bordeaux et Montpellier, 37 à Rennes et Angoulême, 36 pour Lyon, 35 à Paris, 34 à Quimper, 33 pour Lorient et Lille, 30 à Nice et 29 pour Dunkerque. Ce ne sont pas encore les températures les plus chaudes puisque un nouveau pic de chaleur est attendu pour samedi. Dans le ciel, pas grand-chose à vous signaler à part ce soleil radieux qui brille dans un ciel sans aucun nuage et quelques petits orages aujourd'hui sur les Pyrénées.
Merci beaucoup Anissa, il est midi 19, restez bien avec nous dans Europe Midi, on va parler des législatives. Qu'est-ce qui se profile? On en parle avec Bruno Cotterès, politologue évidemment, et avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Et avec vous bien sûr au 39-21, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
J-2 avant les législatives, ce qui devait être une promenade de santé pour le président de la République et sa majorité pourrait être plus compliqué que prévu. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter dimanche pour ce second tour? On en parle avec vous, vous appelez le 39-21 et avec Bruno Cotterès, politologue et chercheur associé au CIVIPOF, et avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Je ne vais pas vous demander à tous les deux pour qui vous allez voter, mais ce matin, j'interrogeais Jordan Bardella, le président du RN. Je lui demandais pourquoi on parlait autant de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. Il m'a répondu parce que c'est l'idole des rédactions. C'est vrai, Louis Dragnel ?
Non. Non, c'est pas l'idole des rédactions. En revanche, ce qu'il est parvenu à faire a pour le coup fasciné les observateurs politiques. Mmh. Il est parvenu à faire ce qui paraissait il y a encore un mois totalement impossible, c'est-à-dire mettre sous la même coupe le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes et la France insoumise. Et de ce point de vue-là, c'est un exploit. C'est réellement un exploit. Mmh. Et donc, c'est à saluer. Deuxième élément, comme il a réussi à créer cette unité, à faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche dans toutes les circonscriptions en France, eh bien, les journalistes politiques se sont intéressés au phénomène que ça représente, à la dynamique. Ça lui a permis de raconter une histoire, en fait, Jean-Luc Mélenchon, que les autres ne sont pas parvenus à raconter. Donc voilà, ça a forcément suscité un intérêt. Et on se pose tous la question, puisque vous savez, Jean-Luc Mélenchon a aussi expliqué « Faites-moi rentrer à Matignon, élisez-moi, désignez votre Premier ministre. » Et en gros, l'élection présidentielle, on peut l'effacer si vous me désignez, si vous votez pour les candidats de la NUP. Et du coup, nous, ça nous intéresse parce que institutionnellement, il est en train d'essayer de provoquer l'espèce de phénomène inverse de ce pourquoi on a aligné la présidentielle sur les législatives. Initialement, pourquoi est-ce qu'on a aligné les législatives sur la présidentielle ? C'était pour permettre au président élu, quel qu'il soit, d'obtenir une majorité. Et donc Jean-Luc Mélenchon propose un contre-discours qui consiste à dire, en fait, on va inverser, on va contrecarrer ce pourquoi voilà, cette réforme avait été mise en place. Donc c'est complètement contre-intuitif. Et d'un point de vue juste de l'analyse politique, c'est intéressant. Réellement, c'est amusant. Et voilà, après, il y a le fond des sujets.
Bien sûr.
En termes d'analyse politique, ce nouvel objet est intéressant.
Alors, on va attendre les résultats de dimanche, mais ce qui se profile dans les sondages, bien sûr, c'est une majorité relative pour LREM, pour la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé entre la présidentielle et maintenant, Bruno Cotterêts ?
D'abord, on n'a pas du tout le même niveau de participation. Donc, c'est vrai que ça a coûté des voix dans tous les électorats, ça c'est très clair. Donc on n'a pas le même niveau de participation d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que Louis de Ragnel vient de le rappeler, il y a eu ce coup stratégique politique de Jean-Luc Mélenchon qui a joué une importance capitale sur ces élections législatives parce que vous savez, une bataille électorale, ça partage aussi des points avec une bataille militaire. Celui qui arrive à préempter, d'une certaine manière, à imposer le terrain de la bataille, à choisir l'angle, la perspective, nous on appelle ça un effet de cadrage, eh bien, il dispose d'un avantage très important. Et c'est vrai que du point de vue de la gestion par Jean-Luc Mélenchon de la création de cette coalition La NUP, il a très vite dégainé. Au fond, il a très rapidement, pratiquement dans les heures qui ont suivi le premier tour de la présidentielle, il a fait cet effet de cadrage qui fait que l'attention médiatique effectivement s'est portée vers ça, mais aussi que les électeurs de la gauche qui étaient totalement déboussolés, la sortie de l'élection présidentielle, le score de Yannick Jadot, le score d'Anne Hidalgo, la non-qualification de Jean-Luc Mélenchon, donc l'électorat de gauche, il sort complètement déboussolé, et là d'un seul coup, on lui offre une perspective, alors que cet électorat était en demande d'unité. J'en veux pour preuve toute la thématique de la primaire populaire tout au long de la présidentielle. Donc ça, il s'est passé quelque chose de très important entre la présidentielle et les législatives. Et c'est vrai que le pouvoir présidentiel, la majorité présidentielle a un peu tardé à répondre à ce coup stratégique. Le coup est parti très, 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 très rapidement. Et d'une certaine manière, ça a fortement orienté la campagne pour les législatives et en partie les résultats.
Merci Olivier de nous avoir appelé au 39-21. Vous avez 46 ans, vous êtes cadre financier. Vous nous appelez de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour.
Bonjour.
Vous irez voter dimanche, hein ?
Oui, j'irai voter. Alors, juste pour. J'étais en train d'écouter attentivement votre débat. Oui. Ce qui est hallucinant, c'est que la gauche a réussi ce que la droite était incapable de faire. C'est peut-être pour ça qu'on parle autant de Mélenchon. Donc, à droite, il devrait réfléchir peut-être un petit peu plus. Oui, j'irai voter parce que c'est un droit fondamental, c'est un devoir même fondamental, me semble-t-il. On passe notre vie à faire la leçon de démocratie à la terre entière. Et chez nous, on boude les urnes. En plus, j'estime que pour pouvoir, entre guillemets, l'ouvrir dans les 5 prochaines années, il faut être légitime. Pour être légitime, il faut aller voter. Moi, j'en ai assez qu'on rouspète après les élections, qu'on mette en cause tout et n'importe quoi, alors que le moment où il fallait voter, donner son avis, on préfère aller à la pêche. Après, je pense aussi qu'on arrive au bout d'un cycle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent sur le rôle du député, sur son pouvoir. Moi, j'aimerais bien qu'on qu'on adapte la constitution, à la vie d'aujourd'hui. Il faut de la proportionnelle, il faut que le député puisse être aussi maire d'une commune pour qu'ils comprennent bien les enjeux, les conclusions, ce que ça veut dire de voter des lois. C'est pas simplement les voter, c'est les appliquer.
Olivier, vous savez ce que je vous propose ? Il est midi 28, on va faire une petite pause publicitaire, il y a le flash, et puis on se retrouve juste après, on va parler du rôle du député. Restez avec nous, Olivier, on va parler du rôle du député et également de l'union de la droite. Tiens, pourquoi la droite ne fait pas l'union comme la gauche ? On est avec Louis de Ragnel et avec Bruno Cotterêts, et avec vous, bien sûr. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi, bienvenue à tous, bienvenue dans Europe Midi. Le débat continue dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel de l'actualité avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Un tiers du pays est en alerte canicule. 12 départements de l'Ouest et du Sud-Ouest sont en vigilance rouge. Orange pour 25 autres départements de l'Ouest jusqu'au Centre-Est. Dans les départements en alerte rouge, les écoliers et les collégiens ont pu rester chez eux. Les 40 degrés seront fréquemment atteints, voire dépassés, selon Météo France. L'Ukraine est dans la famille européenne. C'est un signal fort envoyé à la Russie, assure Emmanuel Macron sur BFM TV. La Commission européenne qui recommande d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE, un avis qui sera discuté lors du sommet européen des 23 et 24 juin. En attendant, la Russie a considérablement réduit ses livraisons de gaz vers les pays européens, notamment vers l'Allemagne. La France ne reçoit plus de gaz russe par gazoduc, selon GRT Gaz. Au 114e jour de la guerre en Ukraine, l'ONU s'alarme de la situation humanitaire dans le Donbass, jugée extrêmement alarmante. L'usine de Severodonetsk, où se sont réfugiés près de 500 civils, est impossible à évacuer sans cessez-le-feu complet, prévient le gouverneur local. L'usine belge de Ferrero, autorisée à redémarrer pour une période test de 3 mois, elle a fait l'objet d'un nettoyage approfondi et subit des contrôles de sécurité alimentaire. L'usine est au cœur d'un scandale après la contamination au salmonelle de chocolat Kinder. Et puis un mot de rugby, demi-finale du top 14 ce soir. Le champion en titre Toulouse affronte Castres. Coup d'envoi de la rencontre à 21h05.
Voilà, et ça sera à suivre sur Europe 1 à partir de 21h. Voilà, dans Europe Sport. Merci Émilie. On vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h33, on est avec Bruno Cotteresse, politologue, et avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Et avec vous, Olivier, merci d'avoir patienté, de nous avoir attendu. Je voulais vous garder parce que vous avez soulevé deux questions qui nous apparaissent très intéressantes. Et pour tout vous dire, on en parlait pendant la publicité avec Louis de Raguenel et Bruno Cotteresse. Petit 1, le rôle du député, on ne le comprend plus très bien. Enfin, il y a des questions qui se posent. Et puis l'union de la droite. C'est ça dont vous nous parliez, hein, Olivier.
Oui, en fait, c'est le rôle du député, oui. Sincèrement, personne ne comprend plus rien. Et c'est vrai que, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais avec le quinquennat, j'ai l'impression qu'on a un vrai problème de lisibilité sur ce mandat-là. Et après, simplement, je faisais référence à votre débat sur pourquoi on parle autant de Mélenchon. Et c'est vrai que Mélenchon, moi, c'est pas mon bord politique, mais je trouve qu'il a réussi un grand coup avec l'union de la gauche, et nous, à droite, ça pose un vrai problème, puisqu'à droite, ils sont divisés entre ceux qui veulent rester indépendants, ceux qui veulent une place chez Macron, ceux qui veulent l'union de la droite. Voilà.
La Quand gauche, vous parlez d'union de la droite, Olivier, vous pensez à qui? Qui pourrait faire l'union?
Aujourd'hui, il faut être clair. Soit il y a des partis républicains, soit ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, alors il faut le dire, il ne faut pas qu'ils soient présents dans le champ démocratique. S'ils le sont, ça veut dire donc qu'on peut discuter.
Vous dites que si le parti est autorisé à se présenter aux élections, il est dans le champ républicain, c'est ce que vous dites.
Il faut être cohérent, parce qu'à un moment donné, ça ne tient plus la route, le Front républicain, les barrages. Enfin, on fait tellement de barrages que bientôt, on pourra faire en sorte que les électeurs n'iront même plus voter, à tel point qu'il y aura des barrages de partout. Donc, à un moment donné, je crois... Enfin, quand on parle avec les électeurs, quand on parle avec des citoyens, il n'y a pas ces frontières de partis politiques. Aujourd'hui, à droite, on a un vrai problème parce qu'il y a plusieurs droites et peut-être qu'elles sont irréconciliables. Mais en attendant, par exemple, moi, je fais partie de la droite. Et quand je vois que la gauche est capable de ressusciter de ses cendres, alors on peut discuter sur le fond, etc. Je suis très sceptique, moi, sur le truc. Mais enfin, résultat des courses, ils vont peut-être avoir plus de 200 députés pour un mouvement qui était encore marginal. Il y a quelques mois, quoi. C'est vrai que ça pose une vraie question.
C'est très intéressant. Bruno Cotteresse, ce que dit Olivier, c'est qu'il y a des partis qu'on taxe de non-républicains, qu'on accuse de ne pas être républicains. Bon, s'ils se présentent, s'ils ont le droit de présenter des candidats, ils le sont, républicains.
Oui, on voit toute la difficulté, effectivement, de ce débat sur quels sont ceux qui respectent ou qui ne respectent pas les valeurs dites républicaines. Et d'ailleurs, on voit que le débat progressivement se déplace, et c'est un peu moins le thème des valeurs dites républicaines aujourd'hui que l'idée d'un socle commun de valeurs qui sont une société de la tolérance, de l'ouverture, etc. Et c'est vrai que tout le monde le souligne, si des partis politiques ne respectent pas la loi fondamentale, notre loi fondamentale, c'est quand même notre constitution qui dit que la France est une république, qui dit que c'est une république laïque. Voilà, il suffit de reprendre les premiers articles de la Constitution.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche l'union de la droite ?
Si des partis ne respectent pas ça, on se demande pourquoi ils présentent des candidats aux élections. Sur les éléments, qu'est-ce qui empêche de l'union à droite ? C'est une histoire qui est assez compliquée. Il y a deux, pour moi, il y a deux dimensions assez intéressantes.
Simplifier là,
voilà,
cette histoire.
On va simplifier. Il y a d'abord ce qui a permis l'union à gauche, c'est une dimension conjoncturelle. C'est-à-dire qu'il faut peut-être arriver à un stade d'une impasse tellement importante, c'est-à-dire les scores des candidats Yannick Jadot et Anne Hidalgo à la présidentielle, qui sont un tel... C'est tellement spectaculaire.
Un tel désastre, oui.
Voilà, il faut peut-être en arriver là, à ce moment-là, pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne une initiative en disant on va mettre un coup de pied maintenant qu'on est descendu tout en bas et on va remonter progressivement. Et peut-être qu'il faut, à un moment donné, en arriver à une situation d'une telle impasse qu'il n'y a pas d'autre issue que de reconstruire sur des bases un peu nouvelles. Au fond, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a proposé. Après, il y a des dimensions beaucoup plus structurelles en dehors de la dimension conjoncturelle qui sont des éléments de différenciation qu'on trouve aussi à gauche, mais qui sont souvent un peu moins forts. Et puis aussi, il y a à gauche une longue habitude d'union avec les communistes, les socialistes, les écologistes. Ça ne date pas d'hier, l'histoire de l'union de la gauche. Il y a une très longue habitude, il y a des décennies, en particulier dans les collectivités locales, il y a des décennies de gouvernement municipal commun. Il y a beaucoup de mairies qui sont dirigées par des coalitions avec des socialistes, des insoumis, des écologistes.
Mais dans les mairies, souvent, on s'entend. On peut même se voilà, il y a même voilà, droite-gauche qui...
Voilà, donc il y a des éléments de différenciation. La situation n'est pas parfaitement équivalente à gauche et à droite.
Je suis d'accord avec ce que dit Bruno Cotterêts. Je pense juste une petite chose en plus, c'est que la droite a toujours eu peur des leçons de morale venant de la gauche. Elle a tellement peur d'être cataloguée comme non-républicaine qu'elle s'interdit par principe de à la fois défendre un certain nombre de convictions et en même temps d'aller discuter avec d'autres partenaires éventuels. Et ce qui est dingue quand même dans cette histoire, c'est que moi je pense très sincèrement qu'il y a plus de différence aujourd'hui entre une Valérie Rabault, la présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, qui fait partie de la même formation maintenant que par exemple Daniel Obono, prochainement Rachel Keke, prochainement Raquel Garrido, je pense également à Alexis Corbière. Il y a plus de différence entre ces gens-là qu'entre par exemple un Christian Jacob et une Marine Le Pen ou un Guillaume Pelletier qui lui-même vient des LR. Et du coup, en fait, la difficulté pour la droite, c'est que voilà, elle s'est tellement enfermée, elle est devenue un peu prisonnière de ces barrages, que du coup, elle n'en sort pas, elle n'ose même pas l'envisager. Et juste une dernière chose, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la question des barrages est en train de toucher, je trouve, ses limites, puisque, vous savez, dans les consignes de vote d'Emmanuel Macron et du gouvernement vis-à-vis des candidats de la NUP, eh bien, il y a certains candidats de la NUP qui sont considérés comme républicains, d'autres non républicains. Du coup, les électeurs sont complètement perdus, en tout cas ceux qui sont tentés de voter pour NUP ou pas NUP. C'est-à-dire que dans une circonscription, un candidat qui a une couleur politique, vous ne pouvez pas voter pour lui, et le candidat qui a la même couleur politique dans une autre, vous avez le droit moralement, entre guillemets, de voter pour lui. Je termine simplement par une chose, je serais curieux de savoir aujourd'hui qu'on m'explique que sont les valeurs républicaines, puisque... Alors, Bruno Cotterêts a rappelé la définition fondamentale. Mais aujourd'hui,
il y a surtout cette inquiétude de la droite d'être taxée.
Républicaine à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Le terme a été tellement galvaudé. Vous savez, tout le monde se prévaut des valeurs républicaines. On finit par ne plus savoir
Olivier,
ce que c'est.
Olivier, vous êtes encore en ligne avec nous ?
Oui, tout à fait.
Bon, bah écoutez, merci de nous avoir appelé de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes ces questions. On est également avec des Yvelines également, qui nous appellent de plaisir. Bruno, bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
Vous êtes agent immobilier. Vous n'irez pas voter dimanche.
Exactement.
Ah bon ? Parce que aujourd'hui, vous dites que les députés ne remplissent plus leurs fonctions.
Ah. Ben, j'irai pas voter justement pour toutes les raisons qui ont été évoquées, et notamment cette synchronisation qui disait qu'il fallait donner une majorité. C'est pour ça qu'on avait synchronisé la législative avec la présidentielle, pour donner une majorité à un parti. Je suis pas d'accord qu'il fallait donner une majorité à un parti, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une majorité d'idées. Sauf que réfléchir étant plus compliqué que voter, effectivement, il devient compliqué à certains partis de se dire, tiens, il va falloir qu'on se creuse pour trouver une idée qui puisse être favorable à suffisamment de monde au niveau national pour que chaque député défendant sa circonscription puisse y trouver son intérêt. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça peut être extrêmement compliqué. Réfléchir, c'est dur. Expliquer ce qu'on a réfléchi, c'est encore plus dur. Faire comprendre et du coup adhérer, là, on passe dans le domaine comment dire, de l'impossible, parce que maintenant la référence politique pour l'élection présidentielle, c'est les émissions d'Hanouna. Forcément, la réflexion, c'est peut-être pas la spécialité.
Bah, il en faut pour tout le monde. La politique, ça va, c'est partout. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais oui, vous dites que oui, les députés ne remplissent plus leurs fonctions. Tiens, il y a Louis Dragnel qui veut vous répondre.
Moi, ce que je trouve intéressant, dans tous les témoignages des auditeurs, la question qui revient, c'est en fait à quoi sert un député ? Et en fait, moi je pense
les auditeurs, Louis, on en parlait nous-mêmes.
Bien sûr. Non, mais là, je saisis le fait
nous-mêmes pendant la publicité. Bruno Cotterêts disait, il y a plein de gens qui viennent me voir qui disent, mais au fait, Bono, à quoi ça sert un député ?
Mais je pense qu'en fait, on a tué la fonction de député. Vous savez, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'habitais dans une ville où mon député était également le maire de la ville. Et nous, pour nous, c'était extrêmement important. Il y avait quelque chose qui était fondamental, oui. C'est que on était convaincu que quand on lui parlait en tant que maire, ça allait remonter à Paris et que les questions, les préoccupations qu'on avait allaient être portées à l'Assemblée nationale. Et en fait, le problème, c'est qu'avec la fin du cumul des mandats, eh bien, je pense qu'on a abîmé ce lien entre le député et les Français, puisque quand le maire était également député, eh bien, tout lui remontait. Ouais. Le député, il ne pouvait pas voter des sujets pour lesquels, en mairie, on lui expliquait que les électeurs étaient totalement contre. Et puis, une petite chose qui paraît complètement anecdotique, mais à mon avis, qui ne l'est pas, il y avait à l'époque ce qu'on appelle, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la réserve parlementaire. Le député-maire pouvait obtenir des sommes d'argent s'il négociait bien pour ses administrés. Ils pouvaient par exemple financer un stade, ils pouvaient financer un square, un parc pour les enfants. Mais ça paraît complètement anecdotique. Mais du coup, les électeurs voyaient le sens. Voyez, est-ce que mon député s'est bien battu pour défendre mes enjeux locaux ? Et vous savez, quand on dit qu'on est député, normalement on est député de la nation, d'abord et avant tout, mais on est aussi député d'un territoire. Et en fait, le problème, c'est que les députés ne sont plus députés de territoire, précisément parce qu'il n'y a plus cette possibilité de cumul des mandats. Donc moi, je pense que rétablir une forme de cumul, le mot n'est pas bon, mais parce que c'est négatif, mais je pense qu'il faudrait même rendre obligatoire le fait d'avoir au moins un mandat. Je ne dis pas qu'il faut être président de conseil départemental, plus régional, plus député. Voilà, il faut retrouver une certaine mesure pour permettre l'ancrage local. Et à mon avis, ça réglerait déjà un certain nombre de choses avec des sujets que les Français disent être frustrés de ne pas voir remonter à Paris. Je pense que voilà, ils se sentiraient peut-être un peu plus écoutés, un peu plus entendus.
Est-ce qu'il faut changer les règles du jeu ? On en parle dans Europe Midi. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a deux auditeurs des Yvelines. Bon. Et Bruno qui nous a appelé également de plaisir dans les Yvelines également. Merci beaucoup à tous les deux. Beaucoup d'appels au 39-21. On est avec vous, on est ensemble comme tous les jours dans Europe Midi. On est également avec Bruno Cotterêts et avec Louis Dragnel. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h47, merci d'être avec nous. J-2 avant les législatives. Henri Guénaud est inquiet, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, l'écrit dans le Figaro. Il dit que la moitié des électeurs s'abstient, c'est vrai, 50% d'abstention, même un petit peu plus. Et l'autre moitié, la moitié de ceux qui votent pour des partis protestataires. Il s'inquiète pourquoi ? Parce que personne, écrit-il, ne cherche à savoir comment on en est arrivé là et où est-ce que ça nous mène. Bon, est-ce que vous aussi vous êtes inquiet ? Vous appelez le 39-21 et vous témoignez, vous passez à l'antenne. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec Bruno Cotterêts, politologue. Tiens, sur cette inquiétude d'Henri Guénaud, un mot, Bruno Cotterêts ?
Henri Guénaud est inquiet, c'est presque un pléonasme. C'est une spécialité hein, chez lui, mais c'est vrai qu'il a souvent le diagnostic
vu comme
profond,
ça.
Affûté. Et c'est vrai que quand on regarde les données d'opinion publique, on voit que l'élection présidentielle et toute la séquence politique dans laquelle nous sommes depuis maintenant plusieurs semaines n'a nullement réglé les peurs, les craintes, les angoisses, les amertumes même des Français. C'est toujours là. On le mesure dans les enquêtes d'opinion. Le thermomètre sur la colère et sur la crainte vis-à-vis de l'avenir, le sentiment diffus qu'on est dans une forme de brouillard un peu épais, on a du mal à se projeter pour demain, même après-demain, c'est encore une autre histoire, mais même demain. Donc c'est toujours là, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne voit pas pour le moment que les élections auraient réenchanté le climat de l'opinion publique en France.
Sébastien est en ligne avec nous, 39 ans. Sébastien, français de l'étranger, bonjour.
Bonjour à tous, merci de me donner la parole.
Merci à vous de nous avoir appelés sur Europe 1, c'est le principe de donner la parole. Vous dites « la majorité En Marche ne me convient pas, mais elle est beaucoup moins dangereuse que NUPES ».
Oui, c'est exactement ça. On a vu au cours des 5 dernières années que la Macronie c'est ni plus ni moins qu'une scoliose idéologique. Le « en même temps », c'est tout dire et son contraire. Il y a eu beaucoup d'exemples qui peuvent illustrer ce genre de fonctionnement. Donc, quand Emmanuel Macron parle en Algérie de crimes contre l'humanité pour ensuite nous parler de rente mémorielle, ce rétropédalage, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On a vu aussi les couacs entre, par exemple, Dupond-Moretti et M. Darmanin. Quand M. Darmanin parle d'ensauvagement, Dupond-Moretti parle de sentiment d'insécurité. Donc là, encore une fois, on est dans du « en même temps » flagrant.
Vous dites que c'est de la godille, quoi. Ouais, ouais. Un coup
exactement,
à droite, un coup à gauche.
Une cuillère... Voilà, c'est une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Donc... C'est assez insupportable. Et puis l'exemple le plus flagrant de cette idéologie, c'est ce qui s'est passé entre les deux tours. On se rappelle que suite au meurtre horrible de Samuel Paty, le président Macron nous avait parlé, nous avait sorti donc tout le programme concernant la radicalisation, la loi sur le séparatisme, pour finalement se retrouver entre les deux tours face à une femme voilée, et lui dire « vous êtes voilée, vous êtes féministe, c'est extraordinaire ». C'est vraiment cette espèce de… Il fait une chauve-souris, hein, Monsieur Macron. Hein. C'est-à-dire qu'il va voir les oiseaux, il leur dit « regardez mes ailes », et puis après, il va voir les rongeurs, « regardez mes incisives ». Quoi.
Ouais. c'est
vous avez un goût pour les métaphores incroyables.
Ouais. Louis Dragnel.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est ce qui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'électeurs de droite, de ce que je comprends, hein, de votre positionnement, qui se retrouvent dans cette situation. C'est-à-dire que globalement, vous n'avez pas été très satisfait sur les questions régaliennes, sur les questions de lutte contre l'islamisme, les questions aussi de respect vis-à-vis des pays étrangers. Je pense à votre exemple sur l'Algérie. Et en même temps, aujourd'hui, vous vous sentez coincé parce que vous vous dites, face au chaos, selon ce que vous pensez, que pourrait représenter Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez d'autre choix que de voter pour Emmanuel Macron. Est-ce que ça résume ce que vous pensez ?
Oui, 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 tout à fait. Moi, je suis dans une circonscription où aujourd'hui, j'ai le choix entre la NUPES et la République En Marche. Très honnêtement, je pense que je vais voter blanc ou peut-être m'abstenir. Pourquoi ? Parce que je ne me reconnais dans aucun de ces deux partis. Maintenant, il faut aussi regarder quels sont les vrais dangers. Et le vrai danger aujourd'hui, c'est la NUPES. C'est-à-dire que, bien sûr, la République En Marche, ça ne me convient pas.
Vous hiérarchisez les dangers. NUPES en numéro 1.
Grand danger donc pour la LREM. NUPES. Et en même temps, vous votez blanc et pas... c'est ça qui est intéressant, et pas ensemble. Parce que Emmanuel Macron a justement voulu faire en sorte que les électeurs de droite aient suffisamment peur de la NUPES pour attirer leur voix sur ces candidats.
En réalité, les électeurs de droite, et notamment des Républicains, se sentent orphelins et se retrouvent comme Sébastien qui nous appelle d'Asie, voilà, français de l'étranger. Merci beaucoup Sébastien, merci d'avoir témoigné, beaucoup d'appels hein, au 39-21 à deux jours des législatives. Je voulais qu'on parle, comme hier, également du sujet numéro 1. Alors là, et là, vous me regardez, Louis Dragnel, Bruno Cotreff, mais de quoi veut-il parler ?
Mais de la
canicule, bien sûr. Bah oui. Je veux dire, dimanche, on va plus parler, je pense, de nos expériences de canicule que des législatives dont on vient de parler depuis une demi-heure.
C'est politique.
Allez, on est en direct avec Gabriel. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes manager dans la restauration à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Merci de témoigner. La chaleur, pour vous, ça doit être très compliqué à gérer, hein ?
La chaleur, pour nous, ouais, c'est assez compliqué à gérer. Ça demande quand même un gros effort physique ces derniers jours. On se rend compte que certains soirs, la terrasse elle est vraiment pleine, donc on doit courir vraiment partout. Il y a d'autres soirs où la terrasse va être totalement vide. Et par exemple, ce soir, on s'attend à ce qu'elle soit totalement vide parce que la chaleur est insupportable. Donc, on met des parasols, on fait tout en sorte pour que tout se passe bien. Mais les gens ont même tendance à plutôt se confiner chez eux plutôt que de venir en restaurant avec cette chaleur.
Ah oui, quand il fait tellement chaud. Vous devez vous adapter votre carte. J'imagine qu'on est plus salade fraîcheur que choucroute en ce moment.
Ah, exactement, vous avez bien raison. Là, depuis quelques jours, on propose un très bon melon serrano avec des très bonnes salades grecques, bien fraîches. Avec des bons petits rosés qui les accompagnent.
Ça, c'est formidable. Vous n'avez pas trop de mal à embaucher Et à trouver du personnel, c'est bon ?
Ces derniers temps, c'était un petit peu difficile, mais ça, c'est depuis quand même quelques mois, et je pense qu'on n'est pas les seuls forcément à rencontrer ce problème-là. Mais on a quand même pas mal de jeunes qui déposent leur CV pour venir travailler chez nous, parce qu'ils voient un petit peu l'ambiance. Nous, on n'est pas du tout une grosse brasserie, on est vraiment ambiance très familiale, très, très sympa, on connaît les clients et on sait aller vers eux. Donc les gens ont tendance à venir plus chez nous pour déposer leur CV que ailleurs, et on en est très contents. Mais voilà, il y a quand même quelques difficultés et les formations ou même les compétences ne sont pas forcément toujours adaptées à l'environnement dans lequel on travaille. Donc 50-50.
Merci beaucoup. Merci Gabriel d'avoir témoigné dans Europe Midi. Il est 12h55. Voilà un petit témoignage canicule. Manager dans la restauration, dans un restaurant à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Je crois qu'on ne dit plus Billancourt d'ailleurs. Je crois que c'est Boulogne près de Paris. Voilà. Merci beaucoup Bruno Cotterès, politologue, d'être venu nous voir dans Europe Midi. Merci à vous Louis Dragnel, également chef du service politique d'Europe 1. On va vous retrouver pour la spéciale législative de dimanche en partenariat avec CNews. Elisabeth Sayag nous a rejoint.
Bonjour Romain.
Bonjour Elisabeth. Et vous écoutiez le restaurateur.
Oui, mais oui.
C'était vos questions
il
aussi.
Il manque de bras, mais heureusement, il recommence à recruter. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Voilà.
C'est un beau métier.
Le programme de la France bouge.
La saison des festivals recommence. Et donc, pour en parler, on va avoir le fondateur la personne qui produit Solidays. Solidays, ça démarre vendredi prochain. C'est Luc Barru, l'invité de la France bouge.
Bonne
et nous, on vous retrouve lundi.
Et à lundi.
À lundi, Romain.